Chapitre 15. Le Burgerman m'a pris mon anniversaire. Il disait que j'en avais plus besoin. Nous célébrions un autre jour, celui de mon arrivée, celui où je lui avais appartenu. Pour le 4e anniversaire de mon arrivée, il est venu avec une caisse de bière et une pute. Je sais pas, a dit la prostituée. Il a l'air très jeune. Qu'est-ce que ça peut te foutre ? A demandé le Burgerman. Je suis son père, alors si j'ai envie d'offrir un peu de bon temps au gamin, en quoi ça te regarde ? Tu devrais être contente d'avoir enfin une toute nouvelle queue au lieu des mollassonnes habituelles. Allez, un beau gamin comme ça, vas-y à fond. Le plus étrange, c'est que je n'avais pas trop mauvaise allure. Ma vie était finie, mais mon corps semblait l'ignorer. Je grandissais. Mes épaules s'élargissaient. Mes bras se dotaient de muscles fins et déliés. J'avais même un début de barbe. Je vieillissais. Assez pour que le Burgerman ne me touche plus aussi souvent. Il avait d'autres usages pour moi à présent. La fille s'est avancée docilement. Le Burgerman a sorti la caméra. « Détends-toi, » a dit la fille. Elle m'a touché la joue. J'ai tressailli. « Je vais te dire, chérie, oublie-le. Fais juste comme s'il n'était pas là. Il n'y a que toi et moi. Un joli garçon, une charmante demoiselle. » Elle a pouffé, laissant apparaître deux trous à la place des dents. Un beau couple comme nous devrait bien arriver à s'amuser un peu. Elle m'a pris la main, l'a passée sous son chemisier, sur ses seins. « Qu'est-ce que t'en dis, chérie ? Sympa, hein ? Faut reconnaître que ceux qui aiment en avoir sous la main m'adorent. J'ai tout ce qu'il faut là où il faut. Je la trouvais molle, flasque. Je savais pas quoi faire de mes doigts. J'avais les joues en feu, cramoisies. J'ai détourné les yeux, mais je pouvais quand même pas m'empêcher de rougir. Ensuite, elle s'est rapprochée de moi en passant sa langue sur ses lèvres, et ses mains ont appuyé la mienne sur son sein spongieux. Vas-y, chérie, tripote mon téton avec tes doigts. Pétris-le, écrase-le, tu peux pas me faire de mal. Oui, chérie, il est là pour ça. Fais comme si j'étais ta maman et que tu voulais juste téter un peu. » J'ai brusquement retiré ma main, horrifiée. Elle se passait toujours la langue sur les lèvres, les hanches saillantes dans une petite jupe en cuir noir, des bourrelets de graisse débordant à la taille. « Ne m'obligez pas, » avais-je envie de crier. « Oh, s'il vous plaît, éloignez-vous de moi. » « Merde !» a dit le Burgerman. « Tu lui fiches les jetons à ce gosse. Finissons-en. » La fille a haussé les épaules, s'est agenouillée et a commencé à déboutonner mon pantalon. Avant que j'aie eu le temps de protester, elle avait sorti mon pénis et l'avait mis dans sa bouche. J'ai eu un mouvement de recul, mais elle me tenait les hanches à deux mains, fermement. Le Burgerman s'était approché en zoomant. Comme si de rien n'était, il m'a filé une beigne sur le côté de la tête. « Gémis, crétin, ça tourne. Fais en sorte que ça ait l'air bon. » Et là, à partir de cet instant, avec l'empreinte rouge de sa main sur la joue, j'ai pu gémir. Faire en sorte que ça ait l'air bon. C'était mes instructions, et je savais comment agir quand je faisais ce qu'on me disait. Mon corps persistait à fabriquer de la chair et du sang, mais en réalité, je n'étais rien d'autre qu'un robot. Obéissant, passif, programmable. Le Burgerman aussi a paru le comprendre. Il a aboyé d'autres instructions et cela a accéléré les opérations. Quand ça a été terminé, le Burgerman était manifestement excité. Je me suis demandé s'il allait m'obliger à faire ça une nouvelle fois, devant la fille. J'avais connu tant d'humiliations que ça n'aurait guère dû avoir d'importance, et pourtant cela me contrariait. Peut-être parce qu'elle avait été ma première, et que je voulais avoir l'air d'un homme à ses yeux, même si ce n'était qu'une putain. Mais le Burgerman ne m'a pas touchée. Au lieu de cela, il s'en est pris à la pute. Elle a protesté, il ne l'avait pas assez payée, c'était pas leur accord. Alors il l'a frappée sur la tête avec la caméra, jusqu'à ce qu'elle se taise. Ensuite, il a fait ce qu'il avait envie de faire depuis le début, pendant que les paupières de la fille enflaient, et que sa lèvre saignait. Plus tard, elle lui a balancé de l'argent. Et j'ai vu qu'elle savait la chance qu'elle avait de recevoir autant. Elle a attrapé ses vêtements au vol et s'est sauvée. Mais même les putes sont plus malignes que moi. Le burgerman a ouvert la première bière, me l'a tendue, en a pris une deuxième pour lui et proposé un toast. Bonne baise, fiston. Je savais que j'avais bien fait de te choisir. Tu vas me rendre riche. Il a éjecté la cassette de la caméra et, tout en sifflotant, est allé dans le cagibi pour la mettre dans le coffre-fort, avec tous les autres films porno et photos amateurs qu'il avait commencé à vendre contre de fortes sommes d'argent. Nous avons fumé quelques joints, bu encore des bières, j'ai fini par sombrer. Quand je me suis réveillée, le burgerman était endormi sur le canapé. Il ronflait bruyamment. La porte n'était pas fermée à clé. Je n'y pensais même plus. Je me suis levée pour aller me coucher. J'ai rêvé de ma mère. Mais à mon réveil, je ne me rappelais plus son visage. Brune, blonde, des yeux marrons comme les miens. Je me souviens qu'elle aimait vérifier la cuisson des spaghettis en les lançant contre le réfrigérateur. Ça nous donnait le fou rire à mon frère et à moi. Je me souviens qu'en été, elle préparait des pichets de sangria et se prélassait au bord de la piscine. Je me souviens qu'il y a longtemps, une éternité, je m'asseyais sur ses genoux, ses bras autour de moi, et que je me sentais en sécurité. J'arrive pas à me souvenir du visage de ma mère. J'ai pas encore décidé si je réessayerai demain. Chapitre 16. Chez la plupart des espèces, le sac qui contient les œufs est surveillé de près par la femelle. Tiré de la rubrique « Élevage des araignées », http://insected.arizona.edu/spiderrear.htm. Les parents de Tommy sont convaincus qu'il a été tué par quelqu'un qu'il connaissait, disait Sal. Mieux encore, ils pensent que c'était peut-être une querelle d'amoureux. Descendu de 2 balles dans la tête par une ex, sympa. Ils ne sont pas certains. Mais il n'y a aucun doute que Tommy fréquentait quelqu'un en cachette pendant sa dernière année de lycée. Il s'était mis à sortir beaucoup en prétextant qu'il allait voir ses potes, mais ensuite les potes appelaient et demandaient à lui parler. Sa mère l'a questionné une ou deux fois, mais il esquivait toujours. « Oh, Otis a appelé. Oh, c'est parce qu'il n'était pas avec Otis, mais avec Kevin. Kevin a appelé. Bien sûr, c'est parce qu'il était avec Parrish. » Sur le coup, elle ne s'est pas trop inquiétée. Tout le reste semblait rouler, ses notes, le football, le lycée. Elle se disait qu'il les mettrait au courant le moment venu. Évidemment, aujourd'hui, elle regrette de ne pas l'avoir un peu plus cuisiné sur le sujet. Kimberly ne répondit que par un grognement. Elle se trouvait dans la voiture de Sal, devant le Foxy Lady. Le néon du nightclub projetait des lettres manuscrites rose vif toutes les 2 secondes sur le visage de Sal et sur son nez, une danseuse de French Cancan à moitié nue. « Je ne comprends pas », finit-elle par dire. Comment il passe de l'idée que Tommy avait une petite copine secrète à celle qu'il a été descendu par cette même femme fatale? Par désespoir, faute d'autres réponses? Quelque chose est arrivé à la fin de la dernière année de lycée de Tommy. Ils ne savent pas quoi. Il est devenu lunatique, renfermé. Il a arrêté de sortir. Le père se disait que son fils s'inquiétait pour son diplôme, l'entrée à la fac de Pennsylvanie, les compétitions de football universitaire. Sa mère pensait qu'il avait eu une petite amie et qu'elle et Tommy avaient rompu, sans que la décision vienne de Tommy. Cette hypothèse s'appuyait entre autres sur le fait que, de toute évidence, Tommy ne fréquentait plus Darlene, sa petite amie attitrée depuis 1 an. Et que, d'après Madame Evans, ça ne ressemblait pas à Tommy de rester célibataire trop longtemps. Donc il était peut-être avec Ginny Jones, médita Kimberly. Et en février, elle s'est volatilisée, le laissant avec un gros chagrin. Possible. Quelque chose a mal tourné. Tommy a fait la tête, puis il est parti à l'université. Il semblait aller mieux lorsqu'il est revenu pour Noël. Il allait rester sur le banc de touche toute la saison, m'a avoué son père, mais il encaissait bien. Le père est un peu dingue de foot, faut que je te dise. Pas sûr que Tommy aurait été un tel cadeau du ciel s'il avait été, mettons, champion d'échecs. Ou bien alors son père aurait été fan des échecs. Le regard cocasse que Sal lui adressa l'informa de ce qu'il pensait de cette idée. Quatre nouvelles filles arrivaient dans la rue. Kimberly n'avait jamais vu autant de cuissardes de cuir noir et de barésilles au même endroit. Elle avait l'impression d'être piégée au début du film Pretty Woman. Il ne manquait plus que Richard Gere se pointe en Lotus Esprit. Ce qui n'était pas exclu. Ils avaient déjà repéré trois Porsche et une Noble. Mais jusqu'à présent, pas de Delilah Rose en vue. Le soir du 27, continua Sal, Tommy a reçu un appel sur son portable. Il a répondu dans sa chambre en faisant plein de cachotteries. Quand il est ressorti, il a annoncé qu'il allait voir un copain. D'après sa mère, il ne touchait pratiquement plus terre, un sourire jusqu'aux oreilles, et il a filé en coup de vent. Première idée de la mère à l'époque, clairement, le copain était une copine, et clairement, il était surexcité de la voir. Bon, faut se rappeler que Tommy était absent depuis 4 mois. Donc, si c'était une petite copine, le plus probable était qu'il la connaissait déjà avant. Donc, la mère s'est demandé si c'était pas la fille mystère de la dernière année de lycée. Et, conclut Sal avec entrain, les policiers du coin confirment que le chemin de terre où est mort Tommy était le rendez-vous des amoureux à Alpharetta. Densément boisé, peu de passages, l'endroit idéal pour la rencontre de Tommy avec la femme fatale. Qui aurait alors changé d'avis et l'aurait descendu. Peut-être que l'absence avait provoqué un retour d'affection. Elle avait voulu jouer les prolongations. Tommy, de son côté, un beau gosse comme ça qui part à l'université, ça m'étonnerait qu'il soit resté seul dans son lit tout l'automne. Alors, pour commencer, notre minette mystère le largue, et ensuite, comme elle ne peut pas le récupérer, elle le tue. Je te l'accorde, les femmes sont incompréhensibles. Oh, pitié, comme si les hommes étaient des monuments de simplicité. Kimberly termina sa phrase avec plus d'amertume qu'elle en avait eu l'intention et reprit son observation maussade de la vitre passager. Sal sombra dans le silence. Ce type aimait fonctionner en mode binaire, manger, parler. À cet instant, les deux irritaient prodigieusement Kimberly. Elle vit une fille sortir de la boîte. Volumineuse tignasse blonde, jupe outrageusement courte, talons vertigineux. Elle avait passé son bras autour de celui d'un homme 3 fois plus vieux qu'elle, moustache et mèche cache-misère de rigueur. Un Sonny Bono du nouveau millénaire. La fille gloussait et faisait claquer son chewing-gum pendant qu'il s'éloignait d'un pas léger. Un type comme ça, on croirait qu'il aurait les moyens de payer une chambre d'hôtel, mais il allait probablement demander une pipe à l'avant de sa Porsche, réalisant ainsi plusieurs fantasmes en un. Une fois, elle avait caressé Mac pendant qu'il roulait de nuit sur l'autoroute. Il avait failli partir dans le décor et les tuer. Pas vraiment le scénario décrit dans les articles à la une de Cosmo. Mais une fois arrivés chez eux, les choses s'étaient nettement arrangées. C'était à leur début, bien sûr. Quand ils étaient tous les deux jeunes, ivres d'amour et qu'ils ne craignaient pas d'être imprudents. Était-il jamais possible de revivre ces instants? Ou bien était-ce comme ça? Ils allaient se taper dessus, se découvrir de nouveaux griefs et de vieilles querelles pour gouverner leur vie quotidienne, jusqu'à ce qu'elle baisse les bras, ou que Mac baisse les bras, et qu'ils entrent dans les statistiques nationales. Sa mère n'avait jamais pardonné à son père. Bethy était tombée amoureuse de Quincy, l'avait épousé, avait porté ses enfants. Et il ne rentrait toujours pas à la maison le soir. Jamais elle ne s'était remise de cet affront. Et jamais elle n'avait cessé de se sentir coupable. Comment la mort pouvait-elle compter davantage que votre propre famille? « À quoi tu penses ?» demanda timidement Sal. Kimberly détacha son regard de la fenêtre. « Au développement du fœtus, » répondit-elle sèchement. Au fait que les bébés réagissent au bruit fort à 18 semaines de grossesse, mais que les oreilles internes, externes et moyennes ne sont complètement formées qu'à 26 semaines. Alors à 22 semaines, quel est le degré exact d'audition? L'utérus est un milieu bruyant, entre les battements du cœur, la circulation sanguine, la digestion. Peut-être que le bébé n'entend rien du tout. Ou peut-être qu'elle a tout entendu. Ou alors peut-être qu'elle n'a entendu que les bruits les plus forts, les choses vraiment terribles. Espire, je ne sais pas. Ton bébé nous entend ? Demanda Sal en regardant son ventre avec fascination. Tu veux dire qu'en ce moment même, il, elle, le bébé écoute tout ce que nous disons ? Je ne sais pas, c'est ce que j'essaie de déterminer. Waouh ! C'est d'enfer ! Cette déclaration étonna Kimberly. Tu es sérieux ? Bien sûr. Voyons, pense un peu à ça. Par une belle journée, il se peut par exemple que je démarre ma tondeuse. Pendant que tu es assise là, à faire grandir une vie, une chouette petite personne qui dira « maman, papa » et qui peut-être, je ne sais pas, mettra un jour, au point, une tondeuse plus perfectionnée. Tu crois que je pourrais le toucher la prochaine fois qu'il bougera ? Juste une fois ? Elle hésita. « Bon, faut reconnaître que tu m'as acheté des crèmes dessert. » Étonnant, dit encore Sal, et il semblait le penser. « Tu devrais prendre un chien, Sal. »« Non, je suis allergique. »« Alors pourquoi pas un bonsaï ?»« Il y a un agent dans notre service. » Mais avant qu'elle puisse poursuivre, le paysage changea enfin. Sal s'en aperçut également. « Cible en vue à 3 heures, » signala-t-il. « En piste. » Puis ils sortirent de voiture et fondirent sur Delilah Rose. Dès qu'elle les aperçut, Delilah voulut prendre la tangente. Sal l'attrapa par le bras, la fit virevolter. Kimberly lui barra le chemin. Comprenant qu'elle était piégée, Delilah se mit sur la défensive. « Il faut pas qu'on me voie avec vous. Allez-vous-en, merde !»« Vous avez l'air un peu nerveuse, Delilah. » »« Voyons, depuis la création du nouveau commissariat de Sandy Springs, ça doit arriver souvent qu'une prostituée soit interrogée par la police. »« Je m'en fous de la police. Ou de ce que pensent les autres filles. C'est de Dinekara que j'ai peur. » S'il croit que je suis en train de balancer, je serai morte avant demain matin. Très bien, répondit Sal en désignant sa voiture banalisée d'un geste ample. Passons dans mon bureau. On fera des tours dans le quartier, personne n'en saura rien. Pitié, cette bagnole pue les stupes à plein nez. Alors on va marcher un peu, dit Kimberly qui avait déjà douillettement passé son bras autour de celui de Delilah. Elle la tira en avant, forçant la fille à la suivre d'un pas mal assuré. « Doit bien y avoir un petit resto familial quelque part, » continua-t-elle. « Je doute que M. Dinekara passe beaucoup de temps dans ce genre d'établissement. Ce sera comme de se cacher au vu et au su de tout le monde. Et en plus, on pourra tous profiter d'un dîner équilibré et agrémenté de vos spirituelles réparties. »« Je vous déteste, » murmura Delilah d'un air sombre tout en se mettant au pas. « Vous êtes en train de foutre ma vie en l'air. » Vous voyez, le libre-échange d'idées commence déjà. Vous arrivez vraiment à marcher avec ces chaussures ? C'est fou ce que vous êtes grande. Tenant Delilah bien calée entre eux, Sal et Kimberly l'emmenèrent à vive allure. Un pâté de maison dans un sens, 3 dans l'autre. Avec la mixité urbaine qui caractérisait cette partie de la ville, il y avait un resto italien aux couleurs vives à 2 pas de là. Ils l'entraînèrent à l'intérieur, la jetèrent dans un box entouré de famille avec 2 enfants et firent passer les menus. Sal se déclara mort de faim et prit des lasagnes. Kimberly choisit une soupe à volonté et la salade. Delilah jura et ronchonna, puis lorsqu'elle finit par comprendre que quelqu'un d'autre allait payer, commanda des fettuccini Alfredo et du poulet grillé. Sal et Kimberly laissèrent la priorité au dîner. Ils firent crouler leur informatrice affamée sous les pâtes chaudes et la soupe fumante, comptant sur le réconfort d'un bon dîner pour faire le travail à leur place. Tout avantage était bon à prendre. « Je serai remboursée pour le manque à gagner ?» demanda Delilah en consultant sa montre au milieu du repas. « Non, mais vous pourrez emporter les restes chez vous, » lui assura Kimberly. « Et comment je vais faire ?» dit la prostituée en levant les yeux au ciel. « Je vais fourrer le restant de poulet dans mon soutif à balconnet pendant que je travaille le reste de la nuit. » « Je suis sûre qu'il y en a qui paieraient un supplément pour ça, » dit gravement Sal. Delilah lui jeta un regard noir. « Vous êtes le connard qui a essayé de me parler la première fois. Je ne vous aime pas. Débrouillez-vous pour qu'il parte, » ajouta-t-elle en regardant Kimberly. « J'ai déjà essayé. Il est plutôt du genre velcro. Vous feriez mieux de vous habituer à lui. »« J'ai pas à m'habituer à des hommes. » Kimberly interrompit le nouveau couplet de la fille en l'attrapant par le poignet et en le plaquant violemment dans son assiette de fettuccini. « Taisez-vous et écoutez. Vous vouliez nous donner des infos. Bon, on est là. Alors arrêtez de nous faire perdre notre temps et parlez, bordel. » Delilah la regarda d'un air plus circonspect. « C'est comme ça que votre mère vous a appris à parler ?»« Ma mère est morte, merci de demander. » Delilah finit par baisser les yeux. Kimberly retira sa main et ne quitta pas la fille du regard pendant qu'elle prenait une serviette pour essuyer les éclaboussures de sauce blanche. Sal jouait sa partition en se confondant avec la banquette couleur aubergine. Ils arriveraient peut-être quand même à faire équipe. « Pourquoi vous m'appelez, Delilah ?» La fille parut déconcertée. « Vous appelez ? Je vous ai pas appelé. J'ai même pas rencontré l'homme aux araignées depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, et j'ai rien de nouveau à dire. » À qui avez-vous parlé de notre entrevue ?
À qui ? Vous êtes malade ? Dans le milieu où je vis, les mouchards font pas long feu. Pas le genre de truc dont on se vante.
Kimberly la jaugea, essayant d'évaluer si elle disait vrai. Delilah avait coiffé ses cheveux blonds sales en queue de cheval, ce qui mettait en valeur le tatouage bleu foncé d'une araignée qui grimpait au-dessus de ses épaules, les pattes accrochées dans son cou, les crochets tendus vers la courbe de son oreille gauche. C'est lui qui a suggéré le tatouage, Delilah ? Qui vous a peut-être payé pour le faire ? Quelques centaines de dollars ? Un millier ? Combien ça coûte de laisser une marque dans le cou d'une fille ? Le regard de Delilah devint fuyant, indiquant à Kimberly qu'elle tenait quelque chose. Depuis combien de temps vous le connaissez ?
2-3 mois,
marmonna Delilah, détournant toujours les yeux. D'après vous, Ginny Jones a disparu il y a 3 mois. Et vous connaissiez toutes les deux Monsieur Dinecara avant ça. Vu de chez moi, ça fait plus que 2 ou 3 mois.
Bon, peut-être plutôt 6 ou 8, je sais plus. Qui tient les comptes ?
Donc, vous le connaissiez avant de tomber enceinte. La fille ouvrit de grands yeux. Soudain, d'une immobilité de pierre, elle regarda fixement son restant de pattes, les bras raides le long du corps. Delilah ?
Dinecara n'est pas le père de mon bébé, proféra la fille à toute vitesse. J'avais un petit copain. Quelqu'un que j'aimais, d'accord ? Quelqu'un dont je pensais qu'il m'aimait. Alors allez vous faire foutre. Il ne s'agit pas de mon bébé dans cette histoire.
Mais alors de quoi s'agit-il ? Vous connaissez Dinecara depuis près d'un an. Pourquoi le balancer aujourd'hui ?
Je vous l'ai dit, il a fait quelque chose à Ginny et à Bonita Breen.
Ou Mary Black. Ou Etame Reynolds. L'un de ces noms vous dit quelque chose ? Sal avait pris la parole, captant l'attention de Delilah. Il avait changé de place pour la bloquer dans le coin, lui faire sentir qu'elle était cernée, qu'elle n'avait guère le choix.
Quoi ? Qui ?
Ou Nicole Evans, Beth Honeycutt, Cindy Rodriguez, colocataire, associé, complice ? Delilah le regardait sans comprendre, l'air éperdu, hagarde.
Cindy est partie depuis des mois. Qu'est-ce que ça a à voir avec Cindy ?
Où elle est partie ?
Je sais pas. Où vont les gens ? Ailleurs qu'ici.
Vous la connaissez bien ?
Juste assez pour la croiser de temps en temps. Elle aimait faire la fête, si vous voyez ce que je veux dire.
Droguée ? Bah tiens, elle aurait sniffé n'importe quoi, depuis de la superglue jusqu'à la coke. On peut dire que c'était une abonnée de la loose, celle-là. Sous le coup de l'indignation, Delilah s'était redressée. Son regard avait repris un air de défi. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois ?
Je sais pas, moi. Cindy faisait juste partie de ces filles qui sont dans le coin. On la voyait par-ci, par-là. Mais c'était pas comme si on s'écrivait, ni rien. Hein.
Vous connaissez ses colocataires ? Delilah réfléchit. Attendez une seconde. 2 filles, c'est ça ? Une brune ? L'autre avec des cheveux méchamment teints en blond. Ouais, maintenant que vous le dites, je l'ai vue de temps en temps avec 2 filles. Une fois, elles étaient en train de la ramasser par terre pour traîner ses fesses vers la porte. J'imagine que c'était peut-être ses colocs. Vous les avez vues dans le coin récemment ?
Non, pas franchement.
Ça arrive souvent que des filles y apparaissent et disparaissent ?
Tout le temps.
Elles disent qu'elles vont faire le trottoir, histoire de voir, de se faire un peu de blé rapidement. Mais ensuite, elles se font aspirer et bouffer par cette vie.
alors elles se tirent. Où est-ce qu'elles vont ? Demanda Kimberly.
Oh, elles font le circuit classique, répondit Delilah, fataliste. Quand on s'en sort pas ici, on part vers l'Est et Miami, ou vers l'Ouest et le Texas. Tout le monde connaît une amie d'amis qui habite ici ou là et qui se fait une brique par soir. Alors les filles se barrent pour aller faire toujours la même chose dans une autre ville, comme si elles allaient d'un seul coup décrocher le jackpot. C'est marrant quand on y pense. Au fond, toutes les prostituées sont des optimistes dans l'âme.
Est-ce que certaines reviennent ? Demanda Sal.
Des fois, je sais pas. Peut-être au bout d'un an ou deux.
Sauf si elles tombent dans la drogue, ajouta-t-elle sans s'émouvoir. Alors là, elles sont grillées.
Cindy, Beth, Nicole, vous savez pour elles ?
Nouveau haussement d'épaule nonchalant.
Pas vu.
Qu'est-ce que ça peut vous foutre pour Ginny Jones ? Demanda Kimberly. Pourquoi vous croyez qu'elle n'est pas allée voir si l'herbe était plus verte ailleurs, comme tout le monde ?
Parce qu'elle serait pas partie comme ça, répondit immédiatement Delilah, pas sans me prévenir.
Vous étiez si proche ?
Ginny était gentille. Personne ne s'en rendait compte. Les gens la trouvaient bizarre. Mais elle avait des projets, des rêves, des espoirs. Elle était juste perdue, vous voyez.
Il lui arrivait de parler de sa mère ?
Encore un haussement d'épaule, mais moins assuré cette fois-ci.
Elle regardait à nouveau fixement ses pattes, et Kimberly pouvait pratiquement la voir se creuser les méninges à la recherche du mensonge le moins flagrant.
« Je crois que sa mère est morte, » souffla Delilah.
« Elle vous l'a dit ?» demanda Sal.
« Elle a laissé entendre. » Elle disait qu'elle avait personne, qu'elle était seule au monde.
« Et vous, Delilah ?» demanda posément Kimberly. « Comment avez-vous atterri ici ?» La fille eut un mouvement de recul, comme si elle avait pris un coup. Lorsqu'elle releva la tête, ses yeux lançaient des éclairs.
« Ça vous plairait de savoir, hein ? Les flics. Jamais là quand on a besoin d'eux. Si vous voulez signaler un crime, je vous emmerde.
Delilah, non, c'est fini, compris ? Vous valez pas mieux que n'importe qui. Juste deux clients comme les autres, prêts à user et abuser des gens pour parvenir à vos fins. » Et ensuite, vous allez me jeter sur le trottoir sans même me filer un billet de 10. Je vous emmerde, ok ? Je vous emmerde.
Delilah lança un regard vers Kimberly, vers Sal, puis, ayant fait son choix, appuya à deux mains sur le torse de Sal et le repoussa sur le côté. À part la retenir physiquement, il ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Elle passa en trombe à côté de lui, et plusieurs clients s'arrêtèrent de manger le temps de regarder bouche bée cette apparition fugitive de jambes nues. Le patron du restaurant accourut avec des regards inquiets.
« L'addition, s'il vous plaît, » demanda Kimberly.
Le patron déguerpit. Sal reprit ses esprits.
« Elle a son petit caractère, » dit-il.
Kimberly flanquait déjà de l'argent sur la table avant de s'extraire du box. « Allez, Sal, Miss Gypsy à la frousse. Voyons où elle s'est sauvée. »